Le bazar aux nouvelles. Petite histoire, poème.
C'est-à-dire ?
Conte, récit.
C'est à ouïr.
Le bazar aux nouvelles. Des mots d'auteur. Des voix d'amateur. Des oreilles d'auditeur. Soyez toutes oui, non ?
Non.
Les affamés ne rêvent que de pain.
Albert Cossery.
La clarté lunaire donnait l'impression d'un jour singulier. Venu là exprès pour surprendre la honte des hommes.
Ils étaient nombreux, les hommes, et la terre si petite. Et chacun d'eux cherchait quelque part où être seul, où pouvoir se cacher.
Quelques-uns rentrèrent dans leur taudis infâme et s'enfermèrent avec l'espoir que viendrait une autre nuit. Une vraie nuit, opaque et noire, où personne ne verrait son voisin.
D'autres, qui ne savaient où aller, car ils étaient très pauvres et n'avaient même pas de taudis, moururent de leur honte.
Il ne restait plus que quelques hommes, quelques fantômes, qui voulaient encore jouer avec la vie, la dépasser dans ce qu'elle avait d'atroce et de chimérique.
C'était dans la rue, et juste devant la maison de Ami Daubet, un homme d'une rare valeur, vu qu'il possède à lui tout seul, et sans l'aide de personne, trois maisons dans le même quartier.
Ce n'est pas pour le dénigrer, mais les gens prétendent qu'il les a volées.
Abou El Moun, le cocher de fiacre qu'il a connu dans sa jeunesse, raconte à son sujet beaucoup d'histoires immondes et naïves. Entre autres, celle où il dit que Ami Daubet s'adonnait dans le temps au trafic des stupéfiants.
Mais tout le monde aujourd'hui s'adonne un peu au trafic de stupéfiants. Ce détail reste donc mesquin et sans importance.
Passèrent d'abord un vieillard aveugle traîné par un enfant nu, mais complètement nu et qui n'avait rien fait pour l'être. Mendiant et fils de mendiant, la rue les avala peu à peu, lentement, avec dégoût.
Puis passa une femme mariée qui était très pressée, mais personne ne savait pourquoi.
Puis une charrette avec deux hommes dedans, deux hommes maigres et silencieux.
Puis, quelques vagues échantillons de l'humanité crasseuse, sans couleur ni relief, et qu'on ne peut pas décrire.
Puis, la rue redevint ce qu'elle était.
Alors, le jeune Adri, l'étudiant en droit, fit son apparition.
Il était nu-tête, sans veston, et tenait en laisse sa chèvre Lisa, qui ressemblait à un livrier rachitique.
Chaque jour, à 9h du soir, le jeune Adri venait rôder sous la fenêtre de la petite Statuta, la fille de Ami Daubet.
L'étudiant passait dans le quartier pour être un peu fou. C'était son père qui, le premier, avait lancé cette nouvelle.
Le jeune homme commença d'aller et venir, l'air d'un qui promène innocemment sa chèvre et ne pense pas à autre chose.
Parfois, il levait les yeux et regardait dans la direction de la fenêtre dans l'espoir de voir apparaître la jeune fille, puis se remettait à marcher.
Tout cela simplement, sans la moindre ostentation. Il était sûr que personne ne remarquait son manège.
En réalité, cette promenade du jeune étudiant sous la fenêtre de sa bien-aimée ne restait pas tout à fait inaperçue.
Quelqu'un de très bien.
Un personnage d'élite.
Remarquable à son front vaste de génie méconnu et à ses yeux pâles.
Indice d'un tempérament fougueux.
S'y intéressait d'une façon intense.
Ce personnage,
un ancien acteur qui s'appelait Sayed Karam,
occupait une chambre au troisième étage de la maison de Ami Daubet. Et, de sa fenêtre qui donnait sur la rue, il avait observé le va-et-vient de l'étudiant. D'abord avec une neutralité bienveillante, ensuite avec une franche nervosité.
Le spectacle extravagant d'un amoureux promenant sa chèvre sous la fenêtre de sa bien-aimée l'irritait, non pas par son côté absurde et insolite, mais justement pour la somme d'originalité qu'il y trouvait.
Sans vouloir se l'avouer, il jalousait chez l'étudiant certaines attitudes qui faisaient de lui un rival glorieux, dans le domaine d'une vie unique et étonnante.
Sayed Karam croyait que la beauté d'une vie singulière était sa part propre de ce monde et qu'elle lui avait été dévolue dès sa naissance. Il ne pouvait tolérer qu'un autre s'offrît le luxe d'une existence bizarre et surtout dans le même quartier.
Ce jeune étudiant lui semblait accomplir par là une sorte de crime odieux. la seule sorte de crime qu'aucun être, d'après lui, n'avait le droit de commettre.
Tuer un homme dans sa vie vitale et organique.
Soit, cela il le concevait.
Mais se placer en traite dans la conception qu'un homme se fait de la vie, puis, par des variantes inadéquates et saugrenues, singer cette forme de vie.
Cela, Saïd Karab, le condamnait impitoyablement, car il en souffrait trop.
Il avait l'impression qu'un autre respirait à sa place, tandis que lui le regardait faire sans bouger.
À chaque étrangeté nouvelle de l'étudiant, Saïd Karab se sentait amoindri dans l'absolu de sa vie. Quelque chose en lui diminuait lentement, interminablement.
Debout à sa fenêtre,
un peu en retrait pour ne pas se faire voir,
il suivait avec appréhension les évolutions du couple baroque formé par le jeune Adri et la chèvre Lisa.
Ce qui le retenait surtout à cette fenêtre et l'empêchait de se rejeter sur un problème plus personnel qui réclamait en ce moment toute sa souffrance, c'était l'espoir qu'il percevrait peut-être quelques défaillances dans la conduite de ce monstrueux rival.
Une irrégularité de tactique, un semblant d'erreur dans la présentation, eussent peut-être soulagé son amour-propre.
Mais contrairement à ce qu'il attendait, l'étudiant se comportait d'une façon très digne, très naturelle et sans trace du moindre parti pris.
La chèvre Lisa, elle-même, semblait consciente de son rôle et suivait docilement son maître dans sa curieuse promenade nocturne.
Elle y était déjà habituée.
Rien à dire sur l'attitude de Lisa en cette occasion.
La chèvre est plus intelligente que lui,
pensa Saïd Karab.
Vainement, il chercha un air faux, une note de déformante ou simplement de mauvais goût.
Non, rien. Aucune inconséquence à noter.
C'était peut-être avec plus d'adresse ce qu'il aurait fait lui-même.
Sa propre manière d'opérer lorsqu'il se lançait dans le domaine de l'extravagance.
Il me vole ma vie. Cet imbécile me vole ma vie. Pourquoi cette chèvre, maudite chèvre? Et il l'appelle Lisa. Un nom étranger, un nom de femme.
Mais bientôt, il se mit à mépriser ce jeu d'enfant impubère.
Quand j'avais son âge, je réalisais des prodiges qui faisaient enfanter avant terme les femmes du quartier. Et cet enfant impubère voudrait m'apprendre quelque chose?
Alors, pour fuir ce jeune homme criminel qui lui volait sa vie, il regarda le ciel et admira la splendeur de la lune. Et au même moment, il pensait à son enfance lointaine et désordonnée.
En ce temps-là, il habitait avec ses parents dans le sous-sol d'une maison du quartier de Sayeda Zemda. Une bien triste maison, à moitié démolie, et d'où les femmes mégères périlleuses dirigeaient le peuple des enfants livrés à leur instinct au fond de la ruelle.
L'âcreté d'une telle vie le poussait à des vengeances puériles. Par la lucarne qui s'ouvrait à même la ruelle, il pissait sur les pieds des passants indolents et traînards.
Son père était peintre en bâtiment. Chaque soir, en revenant du chantier, il rapportait avec lui des bidons où l'on dilue des couleurs.
Saïd Karab raclait les fonds pour son usage personnel. Il faisait ainsi une réserve de couleurs diverses, dont il se servait à des fins nuisibles.
Par exemple, il allait la nuit avec ses camarades badigeonner de manière plaisante les boutiques des environs.
Cela créait de véritables suicides parmi les commerçants indignés, qui n'en finissaient pas de voir leur respectable boutique imiter l'étrange éclosion d'une fleur paradisiaque, en changeant journellement de couleur.
Encore des enfantillages où l'initiative personnelle ne se faisait pas sentir.
Saïd Karab rêvait d'une action d'éclat où sa personnalité intime se révélerait tout à coup.
L'idée de génie lui vint un soir qu'il n'arrivait pas à dormir.
Il était sorti dans la ruelle avec l'intention très nette de faire quelque chose d'immensément tragique.
Quelque chose de redoutable.
Et il avait attendu l'aspiration, accroupi sur le sol, le regard levé au ciel.
Longtemps, il était resté dans cette position lamentable, comme un mendiant qui attend toujours, malgré l'indifférence générale, ne voulant pas douter de la bonté humaine.
C'était par une nuit chaude et claire, identique à celle-ci.
Une nuit extraordinairement limpide, et qu'on ne pouvait pas palper avec ses mains.
On entrait seulement en elle, on se baignait en elle, et elle vous éblouissait de clarté.
Partout dans le ciel, Les étoiles scintillaient pareilles à des fleurs blanches et immobiles.
Et la lune, pleine et pure, semblait la reine dénudée d'un royaume charnel.
Sayed Karam avait tressailli au contact de cette lune qui lui rappelait la rondeur d'une croupe féminine.
Oui, l'apparence de cette lune impudique comme un morceau de chair nue exaspérait en lui une longue attente amoureuse.
Il faut dire qu'à cette époque, le vieux ramadan propriétaire du four à pain de la rue des Nobles avait pour femme une jeune beauté au cœur substantiel et à la police qui s'appelait Amra.
Et Sayed Karam rêvait depuis quelque temps de posséder cette créature charmante aux formes déjà précisées par son désir, mais tellement intouchable.
Car le vieux ramadan montrait à l'égard de sa femme une jalousie effrénée.
Sans discernement.
Une jalousie close à toute véhilité de douceur.
Uniquement brutale.
Aussi, tous les moyens d'approcher Amra s'avéraient irréalisables. Et Sayed Karam, prosté dans son attitude de misérable, maudissait le destin qui le gratifiait d'un désir aussi difficile à satisfaire.
C'est alors que l'idée avait germé en lui, plus redoutable qu'il ne l'espérait. Sayed Karam s'était mis debout, avait marché droit vers la maison de Ramadan.
Un peu avant d'arriver, il se força à courir pour se donner l'air inquiet, haletant, d'un qui annonce une mauvaise nouvelle.
Il se rappelait encore que, juste à ce moment, deux hommes débouchèrent d'une ruelle voisine et se mirent à se disputer bruyamment.
Sayed Karam entendit l'un d'eux, le plus jeune, dire d'un ton pénétré
« Ouais, ta fille est une sotte, Gamor. Par Allah, c'est une sotte !»
Et puis l'autre, probablement son beau-père, qui lui répondait «
T'aurais dû épouser un ministre puisque tu aimes tant l'intelligence, espèce d'inverti. »
Ensuite, ils disparurent dans la large nuit happée par le clair de lune.
Il devait être près de 10 heures.
Le vieux ramadan devait dormir paisiblement, après avoir dévasté avec ses manœuvres putrides le corps adorable de sa jeune femme.
Le malheur certain de cette pauvre créature fit que Sayed Karam n'hésita pas une seconde.
Il frappa avec ses deux mains de toute sa force contre la porte.
En criant des choses,
mais pas du tout vagues.
Au contraire, pleine d'allusions à un four à pain qui avait pris feu.
Et de la nécessité qu'il y aurait à le secourir au plus vite.
Le vieux ramadan n'eut pas besoin de trop d'explications.
Il avait vite compris qu'il s'agissait de son four à pain.
Et sans demander d'autres détails, il s'élança pour l'éteindre.
Alors Sayed Karam, lui, se dirigea vers la chambre de Amra, au corps substantiel et à la police, et la posséda.
Nous ne savons pas comment, mais il la posséda.
Le plus étrange dans cette histoire reste encore à dire, car Sayed Karam ne se contenta pas de posséder Amra seulement cette nuit-là.
À plusieurs reprises, et durant des mois, il recommença la même blague.
Et chaque fois, le vieux ramadan se laissait faire.
L'esprit démoniaque de Sayed Karam avait eu raison de lui.
Il en était arrivé à un état de hantise tel que...
Les nuits où Sayed Karam ne venait pas lui annoncer la fameuse nouvelle...
Il les passait s'endormir dans une effroyable attente.
Parfois, Sayed Karam, accourant avec son air effaré de circonstances...
le trouvait devant sa porte, prêt à partir.
Et il ne lui disait rien.
Il n'avait qu'à se montrer seulement.
L'autre comprenait tout seul et s'en allait éteindre son four à pain.
Une drôle d'histoire.
La lune était splendide.
Sayed Karam savoura avec plénitude ce souvenir lointain.
Sa vie lui sembla grandiose et sublime, lourde de toutes les tâches inachevées des hommes.
Il fit quelques pas dans sa chambre, puis de nouveau revint à la fenêtre. Il y avait très peu de meubles dans cette chambre.
Sa seule et principale curiosité était un grand fauteuil en bois doré.
Un ancien accessoire de théâtre.
Qui servait de trône à Sayed Karam lorsqu'il interprétait les rôles de roi fou ou dégénéré du répertoire classique.
À part ce témoin de sa vie d'artiste, on ne voyait qu'un étroit divan-lit recouvert d'une étoffe rouge, ternie et déchirée par endroits.
Puis, dans un coin contre le mur, une table haute et large surmontée d'une glace.
Des livres aussi traînaient un peu partout, mêlés à des ustensiles de cuisine.
La clarté lunaire qui pénétrait du dehors noyait tous ces objets dans son eau vertigineuse et les rendait problématiques et illusoires, comme faisant partie d'un rêve.
En bas, dans la rue, le jeune Adri accomplissait avec un sérieux exemplaire sa mission de chaque nuit. Il ignorait qu'il fût observé.
C'est pourquoi il ne se livrait nullement à des excentricités outrancières, jugées inutiles dans un lieu dépourvu de spectateurs.
Bien que sachant où habitait Sayed Karam, l'étudiant n'avait pas pensé à lui. Il le connaissait, mais le fréquentait à peine. Il le mésestimait complètement.
Pour lui, Sayed Karam était un acteur, c'est-à-dire un être vivant dans la peau de personnage fictif et par conséquent sujet à toutes les folies.
Il ne voyait là aucun apport personnel, aucun don particulier.
Sayed Karam plagiait la personnalité de quelques héros de théâtre, s'appropriait ses manies et puis venait faire l'extravagant devant un groupe de personnes inexpérimentées.
Tandis que lui, Adri, bien que jeune encore, ne créait que du neuf et de l'inédit.
Dernièrement encore, n'avait-il pas montré un esprit vraiment original ? En achetant cette chèvre à la veuve d'un montreur de singes qui venait d'être écrasé par une auto.
Tout le quartier avait été sidéré lorsque, pour la première fois, il sortit de chez lui, tenant en laisse la chèvre Lisa, encore en deuil de son ancien maître.
Son propre père fut prêt de le renier pour toujours.
Quant à certaines personnes,
les plus aisées du quartier,
elles le signalèrent à la police comme révolutionnaire et s'attendaient d'un jour à l'autre à le voir arrêté.
Pourtant, cela n'amenait pas le résultat escompté. Malgré cette folie d'un genre nouveau, la petite Statuta ne semblait pas enthousiasmée outre mesure.
Elle demeurait toujours si distante, vraiment si impossible à atteindre.
Le jeune Adri estimait que, pour gagner l'amour de cette petite vierge de 15 ans, une nouvelle échelle des valeurs dans le domaine du fantastique était nécessaire.
Aussi, s'ingéniait-il à éliminer successivement plusieurs formules, lourdes ou banales, considérées comme indignes, pour les remplacer par d'autres aux nuances subtiles et illimitées.
L'achat de la chèvre lui paraissait une étape suffisante dans cette voie.
Et il ne comprenait pas pourquoi la petite Statuta refusait d'y voir une création superbe de son amour.
En réalité, la petite Statuta s'amusait fort des trouvailles de son admirateur.
Mais esprit très enfantin,
elle ne leur découvrait pas ce charme étrange et imprévu que leur voulait l'étudiant.
Elle les accueillait simplement comme des folies naturelles et inhérentes à son âge.
Voilà ce que le jeune Adri ne pouvait pas savoir, parce qu'il manquait encore de psychologie.
Il descendit jusqu'au bout de la rue, revint sur ses pas, puis se mit à caresser la chèvre Lisa qui s'ennuyait mortellement.
Une fois de plus, il regarda vers la fenêtre de la jeune fille, mais ce fut en vain.
La petite Statuta ne se montrait toujours pas. Apparemment, la jeune fille dormait tranquillement dans son lit sans se douter de sa présence.
Ainsi donc, cette promenade sentimentale finirait dans le ridicule et l'inachevé. Le romantisme du jeune Adri en était blessé à mort.
Durant une minute, il demeura pensif, interdit, ne sachant à quoi se résoudre.
La lune resserrée entre deux toits redoublait d'éclat. Un nuage à peine perceptible, léger comme la fumée d'une cigarette, la poursuivait depuis un instant. Il l'atteignit enfin, passa sur elle en l'effleurant, puis continua sa course en s'effilochant à mesure qu'il s'éloignait.
Adri perçut derrière lui un bruit de pas. Il se retourna et vit l'homme aux chaussures éculées qui venait à sa rencontre.
En haut, Sayed Karam, toujours debout à sa fenêtre, commençait à se lasser d'une scène qu'il jugeait atrocement ratée.
Dès le début, à l'apparition de l'étudiant et de sa chèvre, il s'était attendu à quelque chose de mieux qu'une promenade idiote et sans éclat.
Et voilà que ce stupide étudiant ne semblait pas encore prêt à changer de tactique.
Il y avait bien un quart d'heure déjà qu'il pataugeait sur le même trottoir sans vouloir se décider à l'action.
Ça pouvait ne jamais finir.
Qu'est-ce qui l'obligerait à cesser ? Il pourrait continuer ainsi pendant 10 ans encore. Et moi, je serais assez bête pour le regarder faire. Non, assez de temps perdu.
Toutefois, il ne quitta pas tout de suite la fenêtre.
Ce qui l'attirait à présent au dehors, ce n'était ni l'étudiant, ni la chèvre, ni même l'homme aux chaussures éculées qui s'était joint à eux.
Seule, la rue et sa blancheur de cadavre captaient toute son attention.
Jamais encore il ne l'avait vue si prodigieusement réelle.
Éclairée par le visage fatigué de la lune lente et grave.
Il y avait en elle comme une sorte de prestige douloureux.
On eût dit que la rue s'était tuée à force de souffrance.
Et qu'elle venait seulement de mourir après une longue agonie.
Elle était vieille.
La rue.
Et boiteuse.
Et toute tordue par l'âge.
Quelques-unes de ces maisons tombaient déjà en ruine.
Des années durant, elle avait abrité la vie médiocre des hommes.
Et maintenant, les hommes l'avaient choisie pour exprimer toute leur lassitude.
Nue, sous l'énorme clarté de la lune, elle disait tout ce que les hommes cachaient au fond d'eux-mêmes.
Des espoirs tellement petits et des haines tellement grandes.
Elle ne pouvait plus rien cacher. Elle criait sa misère par tous les coins.
Sayed Karam se laissait descendre dans cet univers lucide et transparent.
Il pénétrait dans la rue avec une tendresse émue, la même tendresse qu'il aurait eue envers une créature souffrante.
Elle aussi, la rue, lui semblait extravagante, mais d'une extravagance pauvre, résignée et abandonnée à elle-même.
C'était là le produit calme de la matière, et non les lubies d'un cerveau échauffé. La matière travaillée, pétrie et usée par les hommes, qui lui avaient insufflé leur âme.
Dans chaque pierre du chemin, on pouvait discerner leur image hagarde et apeurée.
La rue exprimait la troublante angoisse d'une collectivité.
Elle n'était pas un individu orgueilleux qui se raconte.
Elle était humaine et grande dans sa détresse.
Parce qu'elle criait la douleur de toute une multitude.
Et Sayed Karam assistait impuissant à ce cri des hommes à travers la matière.
Assurément, la rue exprimait cela d'une manière un peu confuse, presque illogique.
Sayed Karam cherchait à savoir d'où venait ce cri désespéré des hommes et quelle était la source profonde.
Mais le message que transmettait la rue n'avait pas de source unique. Il provenait de plusieurs endroits à la fois.
C'était un chant sorti de plusieurs gorges, un râle immense et pathétique.
De chaque taudis prison s'élevait une plainte isolée qui s'en allait rejoindre les autres et formait avec elle cette atmosphère incommensurable de tristesse humaine.
Sayed Karam se pencha au dehors et fouilla la rue avec le désir de ramener à la conscience quelques épaves de ce naufrage émouvant des hommes.
Jusqu'alors, il avait toujours regardé les hommes à l'état de spectateurs, c'est-à-dire à l'état d'êtres inoffensifs, dépourvus d'attentité, des machines sans danger.
Il ne lui était jamais venu à l'idée qu'un spectateur pouvait souffrir.
Un spectateur, c'était quelqu'un qui regarde les autres.
Sayed Karam se croyait seul sur la scène douloureuse du monde. Autour de lui, il ne voyait qu'une vaine désolation des inquiétudes anodines et sans mérite.
Penché au-dessus de la rue comme sur un gouffre, Sayed Karam découvrait avec gêne et presque malgré lui les aspects d'une réalité sinistre à force de sincérité. Ce n'était plus qu'une réalité agrandie et rendue possible au moyen de subterfuges.
Ici, l'esprit démoniaque n'avait rien forcé ni rien dématuré. C'était tout simplement la réalité misérable et sans préparation, la réalité outrageante de tous les jours et de tous les instants.
Sayed Karam sentait maintenant battre son cœur à la vue de certains détails que la rue, dans sa complète nudité, n'arrivait plus à cacher.
La première chose qui le frappa fut le silence impressionnant, éternel, qui régnait dans toutes les maisons voisines.
Il se demanda si tous les habitants n'étaient pas morts une fois pour toutes, comme ça, dans cette nuit de clair de lune, sans laisser de traces, emportant avec eux dans la mort leur harde, leur maladie et leur faim.
Cela lui fit penser que le fils de Khalifa le maçon, un enfant de 7 ans, venait de mourir ce matin même, faute de médicaments. Le maçon était depuis longtemps sans travail, depuis si longtemps qu'il commençait à oublier son métier.
En outre, il avait une femme qui était un vrai tourment.
Elle ressemblait à un gendarme.
Et maintenant, son fils venait de mourir d'une maladie compliquée à laquelle personne n'avait rien compris.
Sayed Karam se rappelait avoir entendu de bon matin et pendant qu'il dormait encore les hurlements exagérés des pleureuses.
Il regarda du côté de la maison du maçon pour voir s'il y avait de la lumière.
Mais non, il n'y avait rien.
Pas le moindre indice de vie.
Les hommes étaient morts. Ou bien se cachaient-ils ?
Petit à petit, Sayed Karam reconnaissait, disséminé un peu partout, la vie sordide et réelle des êtres.
Durant un long moment, il s'attarda à contempler la maison jaune, celle qui fait l'angle de la rue et où logeait Barsoum le croque-mort.
Tellement pauvre qu'on disait de lui qu'il ne pourrait jamais se payer son propre enterrement.
Cet homme enterrait les autres sans l'espoir d'être enterré lui-même un jour.
Lorsqu'il marchait dans la rue, il avait toujours l'air de porter un cercueil sur sa tête.
Sa conversation sentait le cadavre.
Et Sayed Karam pensa à lui avec un sentiment de pitié mêlé de frayeur.
Le souvenir de cet homme le troublait, comme l'image d'une mort risible et toute proche.
Dans la même maison, logeait aussi Baraka Effendi, l'employé au chemin de fer dont la fille était très laide.
Sayed Karam savait qu'à cause de sa laideur.
De plus, elle avait le visage couvert de boutons.
La jeune fille ne sortait jamais de chez elle.
On racontait dans le quartier qu'elle passait sa vie enfermée dans sa chambre, avec une petite chatte noire, à qui elle faisait de longues confidences morbides entrecoupées de sanglots.
On disait aussi qu'à plusieurs reprises, elle avait tenté de se suicider.
Sayed Karam n'avait jamais attaché d'importance à l'existence de la jeune fille.
Pourtant, à cette minute, il lui sembla qu'elle existait d'une façon immuable et qu'il n'arriverait jamais à la chasser de sa mémoire.
Il imagina dans sa chambre,
prisonnière de sa laideur,
avec sa petite chatte noire sur les genoux,
le visage hideux sous les larmes,
et son cœur trembla d'émotion.
Puis, la maison jaune disparut comme par miracle.
Sayed Karam se voyait maintenant en relation étonnante avec d'autres choses et d'autres gens.
Tous les habitants de la rue défilèrent devant ses yeux, en s'approchant de lui le plus possible.
Il n'attendait pas qu'ils vinssent d'eux-mêmes. Il les devançait dans leur vie, semblait la connaître en entier.
Mais quel était son rôle à lui, Sayed Karam, dans ce drame inconnu qui surgissait de la fange pour le salir et l'humilier?
Qu'avait été au juste son rôle?
Un simple fantoche qui ignorait la réalité tangible de la vie.
Voilà ce qu'il était.
Il avait vécu jusqu'à présent pour étonner le monde, par des extravagances multiples et variées.
Et devant ce désarroi de la rue, il se demandait si vraiment ce monde misérable avait besoin d'être étonné. Qu'importaient aux hommes les folies de Sayed Karam?
Les hommes réclamaient d'abord de vivre sans la menace perpétuelle de la misère et de la faim.
Pensa à ce qu'il allait lui dire tout à l'heure avant de la caresser, comme il le faisait d'habitude à chaque retour de la jeune fille.
Raya tenait l'emploi de caissière dans un grand café-bar de la ville européenne. Sitôt libérée de son travail,
qu'elle quittait à 9h,
elle allait rejoindre Sayed Karam dans sa chambre. Elle n'était jamais en retard.
Sayed Karam sentit que ce soir, elle lui dirait quelque chose d'essentiel sur la vie des hommes et sur sa propre destinée.
Raya entra dans la chambre. Elle resta immobile près de la porte, les yeux grands ouverts, ne pouvant faire un pas de plus tant elle était brisée par la fatigue.
Maintenant qu'elle était arrivée jusqu'ici, toutes ses forces l'abandonnaient d'un coup et il lui semblait qu'elle allait tomber sur le sol et mourir.
Elle essaya de parler mais une douleur piquante à la poitrine l'en empêcha. Alors elle ferma les yeux et resta toujours à la même place, mince et sombre dans la clarté lunaire.
C'était une jeune femme de 22 ans, au corps mince et frêle, vêtue d'un tailleur gris et d'un petit chapeau de paille noire.
Elle avait un visage pâle, sans fard, et l'on sentait qu'elle était simplement une femme sûre d'elle-même, sûre de sa richesse de femme.
Il n'y avait dans tout son aspect aucune coquetterie, aucun artifice.
Une sincérité émue émanait de tout son être.
Sayed Karam, à travers cette clarté de rêve qui baignait la chambre, la vit pâlir et trembler. Puis, inclinait légèrement la tête sur le côté, comme si elle allait s'évanouir.
Mais il ne s'approcha pas d'elle. La lumière de rêve le séparait d'elle.
Elle était là, comme une résonance terrible de la rue.
Elle était venue, et toute la rue, avec ses lueurs de misère et de souffrance, était entrée avec elle dans cette chambre.
Toute la tragédie de la rue se lisait sur son visage. Ce visage qui faisait venir les larmes aux yeux de Sayed Karam chaque fois qu'il le contemplait.
Et maintenant, elle était là avec son visage plus pâle que jamais et le tremblement de tout son corps ardent, mais il n'osait pas l'approcher.
Il comprenait peu à peu que tout l'humain qu'il venait de découvrir dans la rue, Raya, le portait en elle. Il s'élança vers elle et la prit dans ses bras.
« Qu'as-tu, ma chérie? Laisse-moi regarder ton visage. »
Et il l'embrassait partout sur le visage. Et il pressait contre sa poitrine, comme s'il voulait déjà entrer en elle, loin, avec tous les hommes, dans ce monde réel qu'elle portait.
Elle ne répondait pas. Elle était lasse et elle tremblait de tout son corps.
La fièvre. Il vit qu'elle pleurait.
Tu pleures ? Pourquoi pleures-tu ?
Elle rouvrit les yeux et le regarda à son tour en plein visage. Elle le regarda avec ses grands yeux sombres où luisaient quelques larmes comme dans la vie malheureuse des hommes, quelques taches de joie.
Elle sentit qu'il était bien là et bien pressé contre elle. Cela la calma un peu.
La douleur piquante à la poitrine se fit lointaine et comme évanouie.
« Pourquoi pleures-tu » demanda-t-il encore.
« Parce que tu es là. »«
Tu es si pâle, ma chérie. » »«
J'avais peur. J'avais bien peur, sais-tu. »«
Tu avais peur ? Et de quoi donc ?»«
Par une nuit pareille. On a peur de tout. J'avais peur de ne plus te trouver. J'avais l'impression que ce clair de lune allait t'enlever à moi. Tu ressembles tellement à cette nuit fantastique. J'avais peur que tu t'en ailles avec elle pour toujours. » Et voilà que je te retrouve.
Tu me retrouves ? Et tu me retrouves changée ?
Non, je ne sais pas si tu as changé. Je sais seulement que tu es là et que je t'ai retrouvée.
Elle était calmée maintenant. Elle était apaisée et douce. Et elle parlait avec sa voix de petite fille tendre et charnelle.
La voix du fond de sa chair, celle qui ne trompe pas, la vraie. C'était une femme qui aimait avec tout son corps.
Viens t'étendre sur le divan, dit-il.
Il l'emporta serrée contre lui et la coucha sur le divan.
Elle se laissa emporter puis coucher sans rien dire. À présent, la paix était en elle à cause de ce qui allait suivre.
Les caresses.
Elle s'abandonna de tout son long, laissant libre toutes les promesses de son corps.
Elle était à lui, si simplement et si profondément.
Alors, il se mit à la déshabiller avec une lenteur presque maladive, comme s'il craignait de lui faire mal, et aussi à cause d'une idée qui venait de surgir en lui.
Ne pas la posséder ce soir.
Il savait que son désir d'elle était de ce côté paisible de la vie. Et toutes les angoisses disparaisseraient, ou toutes les folies du cerveau meurent vaincues par l'apitoyable élan de jouissance.
Mais il savait aussi que pour elle, chaque jouissance était un pas de plus vers la mort.
Elle était si frêle, et elle se donnait toujours si entièrement.
Elle apportait dans l'amour une telle ardeur qu'il lui semblait chaque fois qu'il la prenait, qu'elle s'anéantissait dans l'amour comme dans une mort inépuisable, et qu'elle tentait de l'anéantir avec elle.
C'était donc là toute la vie des hommes.
Sayed Karam restait ébahi devant la sincérité froide de la rue, trempée de lune.
Un sentiment humain, tout nouveau, s'infiltrait en lui et qu'il n'essaya pas de rejeter.
Le manège de l'étudiant attira de nouveau son attention.
Il le vit qui s'arrêtait en compagnie de l'homme aux chaussures éculées sous un réverbère éteint.
Dans ce clair de lune, tous les réverbères semblaient éteints.
Et lui lire une espèce de lettre qu'il sortit de sa poche de son pantalon.
L'homme aux chaussures éculées l'écoutait avec crainte et, en même temps, paraissait ne pas l'approuver dans cette lecture.
L'homme aux chaussures éculées n'avait pas encore dîné. Il s'attendait à ce que le jeune Indri l'invitât à manger, comme il lui advenait parfois de faire.
C'était quelqu'un de très honorable. Il était toujours triste. Et lorsqu'on lui demandait pourquoi il était triste, il répondait invariablement.
« La faute en est à ces maudites chaussures. Ne le dites à personne. C'est un secret. »
Là s'arrêtait la seule fantaisie que se permettait l'homme aux chaussures éculées.
On ne lui connaissait pas d'autres vices.
Sayed Karam n'admirait plus. Il haïssait de toute son âme l'étudiant, la chèvre et l'homme aux chaussures éculées.
Le réverbère, toujours éteint à cause de la lune, lui semblait dégager plus de sincérité, plus de sens concret de la vie que les êtres humains évoluant autour de lui.
Il allait se retirer dans sa chambre lorsqu'il vit arriver Raya.
Raya, c'était sa maîtresse. Dehors, il y avait la lune et la rue noyée sous la lune.
Le jeune Adri, l'étudiant en droit, quitta brusquement l'homme aux chaussures éculées et, sans regarder une dernière fois la fenêtre de la petite Statuta, s'enfuit tout droit à la maison.
Si Sayed Karam avait pu le voir en ce moment, sans doute eût-il pensé que le jeune homme allait se livrer à quelques gestes extravagants et de nature alarmante.
Mais c'était tout le contraire. Car à peine entré dans sa chambre, le jeune Adri se mit à sa table de travail, ouvrit le premier livre qui lui tomba sous la main et commença d'étudier avec une persévérance dont il n'avait jamais fait preuve jusqu'ici.
Ce subit changement dans l'attitude du jeune homme était dû en grande partie au discours de l'homme aux chaussures éculées qui avait produit sur lui une impression profonde et décisive.
L'homme aux chaussures éculées, qui, de toute évidence, cherchait à l'arracher à sa promenade nocturne pour l'amener dans un restaurant voisin et se faire inviter par lui à dîner, s'était montré tout à fait réfractaire à ses confidences passionnées.
Il avait été vraiment décourageant.
Et puis, la vue de ses chaussures invraisemblablement éculées donnait à toute discussion sur l'amour et la probabilité d'une rencontre avec l'objet aimé cette mélancolie des choses condamnées d'avance à un échec certain.
Jamais encore le jeune Adrien n'avait ressenti l'inutilité de son attente avec cette sûreté indéniable.
Le clair de lune lui sembla tout à coup odieux. Et odieuse aussi cette indifférence de la petite Statuta à son égard.
C'était pourquoi il avait résolu de ne plus attendre et de rentrer tout de suite chez lui.
L'homme aux chaussures éculées marcha longtemps cette nuit-là et se montra dans plusieurs endroits de la vie. À Boul El Moun, le cocher de fiacre,
qui, à cause de ses fréquents déplacements, est considéré comme une sommité en matière de nouvelles,
a raconté l'avoir vu vers 2 heures du matin dans les environs du quartier de Esbekié.
L'homme aux chaussures éculées était, paraît-il, arrêté près d'une pissotière publique en compagnie d'une jeune ramasseuse de mégots qu'il essayait de convaincre.
Mais ce sont là des histoires issues de la mentalité d'un cocher de fiacre.
Maintenant, Raya toussait à perdre haleine. Et cela lui faisait mal à lui de l'entendre tousser. Il souffrait comme si c'était sa propre poitrine que la toux déchirait. Il restait indécis avec son désir d'elle au fond du corps, hésitant, toujours à la prendre.
« Tu ne m'aimes pas ce soir ?» demanda-t-elle.
« Il vaut mieux que tu te reposes. Tu es trop fatiguée, ma chérie. »«
Je ne me repose jamais de t'aimer. Quand je suis là-bas à mon travail, je pense tout le temps à toi, le sais-tu ?»«
Oui, je le sais.
Oh, »« Je te sens toujours en moi. Partout où je me trouve, je te sens en moi. » Et tu continues de jouir en moi. Alors, toutes les choses de la vie m'apparaissent plus belles. Je ne pourrais pas vivre si je ne te sentais en moi. Tu comprends, mon chéri ?
Il ne répondit pas. Il pensait à autre chose.
Il pensait à cette pauvre rue, noyée sous la lune.
Le fils du maçon est mort, dit-il.
Elle ferma les yeux. Elle sentit de nouveau la douleur piquante à la poitrine.
Elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps à vivre. Mais maintenant qu'elle vivait, elle avait surtout besoin de caresses.
Elle opposait ainsi à la mort un corps plein de désirs.
Il lui semblait que la mort ne pouvait l'atteindre tant que son corps tressaillerait de volupté.
Ce qu'elle venait d'avouer tout à l'heure à Sayed Karam était vrai. Durant tout le temps qu'elle passait à son travail, elle ne pensait qu'à lui.
Elle avait toujours la sensation de le garder en elle. Et c'était cela qui la séparait de la mort.
Elle courait dans la rue pour le rejoindre plus vite.
D'habitude, il la prenait tout de suite, à peine entrée dans la chambre.
Elle était toujours nue sous son tailleur gris. D'ailleurs, c'était le seul vêtement qu'elle possédait.
Ils vivaient tous les deux de l'argent de son maigre salaire.
Mais de cette pauvreté, elle ne souffrait nullement. Elle n'avait conscience que d'une seule richesse, celle de sa chair amoureuse et fragile.
Il demeurait toujours silencieux. Dehors, il y avait la lune et la rue nue sous la lune et toutes les misères du monde. Il songeait à des choses palpitantes et vraies.
« Moi aussi, je mourrai bientôt, dit-elle. Et tu resteras seule ? Je pense souvent à cela. Qui s'occupera de toi quand je serai morte ?
Tu ne mourras pas. Tu verras. Je serai capable de te faire vivre.
Je te demande simplement de m'aimer. »
De nouveau, il regarda son visage.
Il était affreusement pâle.
« Je ne sais pas pourquoi. » Mais je ne peux pas regarder ton visage sans que les larmes montent aux yeux. Écoute, Raya, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.
Raconte-moi.
J'ai vu la rue, Raya. J'ai vu les hommes qui habitent cette rue. Ils sont tous misérables.
Je le savais depuis longtemps.
Je voudrais m'approcher d'eux. Je suis restée si longtemps loin d'eux.
Il y avait la fenêtre, et puis la clarté lunaire qui pénétrait par la fenêtre. Il y avait surtout le visage de Raya.
Dans la maison jaune, celle qui fait l'angle de la rue, Barsoum, le croque-mort, se réveilla en sursaut et regarda autour de lui avec effarement.
Il vit que les murs lépreux de son taudis étaient tapissés d'une lumière éclatante qui les rendait transparents et comme franchissables.
Il pensa d'abord que c'était déjà l'aube et qu'il lui fallait bientôt se lever et commencer une autre journée de labeur ingrat.
L'enterrement du fils du maçon devait avoir lieu à 8 heures. Barsoum pensa qu'il était temps de préparer le cercueil.
Mais quelque temps après, il se rendit compte que la nuit durait toujours et que la clarté mystérieuse qui coulait par la lucarne de son taudis était celle de la pleine lune.
Il se rendormit en pensant avec une joie mélancolique que le fils du maçon ne serait pas lourd à porter. Sayed Karam pensait à toutes les extravagances dont il avait peuplé sa vie. Et sa vie lui paraissait vide de sens.
La seule réalité humaine qui l'eût touché avec son cœur et son esprit était cette femme étendue là, près de lui sur le divan.
En dehors de cette femme, toute son existence n'avait été qu'une longue mystification.
Mystification envers lui-même et envers les autres.
Seules les heures passées près de ce corps de femme malade lui paraissaient dignes de son destin.
Le visage de Raya était la seule réalité essentielle de sa vie.
Et c'était par elle, et par elle seule, qu'il avait pénétré ce soir l'immense détresse des hommes.
Il se rappela la première fois qu'il vit son visage. C'était dans le café-bar de la ville européenne où travaillait la jeune femme.
Et il ne savait pas pourquoi, à ce moment, les larmes lui montèrent aux yeux, ni pourquoi il ressentit un profond besoin de sincérité.
Depuis qu'elle était devenue sa maîtresse, ils vivaient ensemble. Pendant qu'elle était au travail, lui passait sa journée enfermée dans sa chambre et rêvait à des pièces de théâtre aux intrigues incroyables.
Il y avait bientôt 2 ans qu'il n'était pas monté sur scène. Il avait tout lâché le jour où le directeur de l'unique théâtre de la ville voulut lui infliger comme partenaire une artiste au nom impossible. Et ce nom ne plaisait pas à Sayed Karam, tout simplement.
Alors, il était parti en attendant des temps meilleurs. À cette époque, il était seul. Sa misère était à la mesure de ses rêves.
Mais la venue de Raya avait changé les choses. La jeune femme lui donnait presque tout l'argent qu'elle gagnait.
Et lui la laissait l'entretenir, se plaisait à cette oisivité si nécessaire à l'éclosion de ses pitoyables fantaisies.
Il voulait révolutionner le monde avec ses idées extraordinaires.
Des idées sorties du fond de son imagination tourmentée, mais qui n'avait rien d'humain pour pénétrer le cœur des hommes.
Il ignorait que les idées extraordinaires ne sont pas celles qui naissent de l'égoïsme barbare des êtres, mais plutôt de leur sacrifice illimité.
Maintenant seulement, il s'en rendait compte. Il n'osait plus regarder le visage de cette femme qui sacrifiait sa santé pour lui venir en aide.
Comment avait-il pu accepter cela ?
Il ressentit la même impression que tout à l'heure, quand l'intime détresse de la rue s'était révélée à lui.
C'était un sentiment de honte et de dégoût envers toute sa vie passée.
Écoute, Raya, tu n'iras pas au travail. Tu es très malade. Il faut te soigner, comprends-tu ?
Et de quoi nous vivrons si je ne travaille plus ?
Je travaillerai moi-même.
Elle le regarda, étonnée, comme s'il venait d'avouer un crime horrible.
Elle n'attendait de lui que de l'amour.
Elle était prête à mourir, pourvu qu'il demeurât toujours le même homme caressant et tendre.
Et il parlait de travailler.
Elle pensait qu'il devait être sans doute très malheureux pour dire une chose pareille.
Je chercherai du travail, n'importe quoi, je trouverai. Ainsi tu pourras te reposer et guérir. Comprends-moi, cela m'est tout à fait nécessaire maintenant pour vivre.
Un homme comme toi ne peut pas se perdre ainsi.
Il y avait toujours cette maudite fenêtre, et par la fenêtre, cette rue sordide toujours présente comme un remords. Je n'aspire plus qu'à être qu'un pauvre homme parmi les autres.
Tu as beaucoup de choses à faire, dit-elle. Tu as de grandes choses.
Le monde n'a pas besoin de grandes choses. Les hommes ont faim, Raya. Et les affamés ne rêvent que de pain. Tout le reste n'est que folie. Tiens,
dit-il après un moment.
L'homme aux chaussures éculées. Je suis sûre qu'il ne l'a pas mangé ce soir.
Je l'ai aperçu tout à l'heure en compagnie du jeune Adri.
Alors il se rappela ce jeune Adri, si désespérément amoureux de la jeune Statuta. Et il se demanda ce qu'il était devenu.
Avait-il enfin aperçu sa bien-aimée ? Ou bien tournait-il toujours au même endroit en compagnie de sa chèvre Lisa et de l'homme aux chaussures éculées ?
Sayed Karam eut envie de se lever et d'aller voir un peu ce qui se passait dans la rue.
La rue était déserte. Il ne vit que le pauvre réverbère qui essayait de manifester un peu de vie malgré la foudroyante clarté de la lune.
Il ressemblait à une personne humaine, une humble personne écrasée par le luxe de la puissance d'une force tyrannique contre laquelle il ne pouvait rien.
Dans ce drame de la rue, la lune personnifiait la minorité privilégiée de ce monde, et sous sa domination se mouraient par milliers les pauvres réverbères, semblables aux déshérités de toutes les races et de tous les peuples, qui crèvent de misère et de faim tout au long de l'immense terre.
Tout le problème est là, pensa Saïd Karam. Le fils de maçon est mort faute de médicaments, c'est-à-dire qu'il était pauvre. C'est une vérité bien élémentaire, mais ce soir elle a son prix. Car c'est pour la première fois qu'elle pénètre aussi terriblement dans mon cœur. Voilà pourquoi je dois la considérer comme une révélation. Désormais, mon amour aura un sens et ma vie une raison. Vivre va signifier pour moi combattre. Combattre dès maintenant et toujours les puissances barbares qui font que les enfants du peuple marchent pieds nus dans le ruisseau. Que les hommes de ce peuple mendient dans la rue ou bien acceptent un travail d'esclave qui ne leur assure même pas le pain du jour. Maudits sont les rêves imbéciles qui peuplent ma vie de fantômes. Seule la réalité sociale inspirera désormais tous mes actes. Et je veux aussi que mon amour pour cette femme malade qui a sacrifié sa santé pour moi ne soit plus que l'expression de cette douleur profondément ressentie.
Il délaissa la fenêtre et revint s'asseoir près de la jeune femme. Elle était toujours étendue à la même place, chaude et nue. Elle ne disait rien, attendant simplement d'être aimée. Elle savait qu'après bien des paroles, il finissait toujours par le prendre.
Au premier étage de la maison jaune, la fille de Bakara, Effendi, l'employée au chemin de fer, est étendue sur la natte de paille tressée qui orne le parquet de sa chambre.
En vain, elle cherche à dormir. En vain, elle cherche à oublier la laideur de son visage.
Nul rêve ne vient l'arracher à la persistance angoisse. Alors elle songe à la mort et elle pleure.
Près d'elle, la petite chatte noire pousse des miaulements plaintifs. La petite chatte comprend la douleur de sa maîtresse.
La jeune fille la prend alors sur ses genoux et se met à lui raconter des histoires incohérentes et sans suite.
Ce sont des histoires où elle tient toujours le rôle d'une princesse aimable et jolie, parée pour des fêtes éternelles.
Un peu plus tard, elle s'endormit et fit un rêve éblouissant dont elle n'oubliera jamais les moindres circonstances.
Saïd Karam pensait toujours au fils du maçon.
Demain, Barsoum le croque-mort devra enterrer le fils du maçon et certainement il ne touchera aucun salaire pour cette besogne. Vraiment, le désintéressement de cet homme a quelque chose de sublime. N'est-ce pas, Raya ?
Comme tu es tendre pour les êtres ce soir. Comme tu t'inquiètes de leur sort et comme tu les aimes, mon chéri.
Je t'aime plus que tout au monde.
Non, non, ne dis pas cela. C'est en les aimant beaucoup, tous les pauvres, les souffrants et les opprimés, que tu m'aimeras le plus fort.
J'ai beaucoup encore à apprendre d'eux. Tu m'aideras ?
Tu as beaucoup de choses à faire, te dis-je. Beaucoup de grandes choses. Et je sais que tu les feras.
Comme cette nuit a tout changé.
Elle n'a pas changé ton âme. Seulement les grandes choses que tu voulais réaliser pour étonner les hommes. Tu les réaliseras pour aider les hommes et les conduire vers une vie meilleure.
Tu savais tout cela bien avant moi.
Dit-il tristement.
Et pourtant, tu ne m'en as jamais parlé.
Tout cela était en toi. Tout cela était inscrit au fond de ton esprit et de ta conscience. Tout cela bouillonnait en toi comme un désir sauvage, attendant l'heure d'éclater. Ne comprends-tu pas ? Alors, regarde mon corps nu. Regarde mes mains qui tremblent. Regarde mon visage et dis-moi, pourquoi tu pleures ?
Arrête, arrête ! Je sais qui tu es maintenant. Tu es la chair martyrisée du peuple, tu es le sang malade du peuple, et ton visage creusé par la souffrance n'est que le reflet accablant de la misère du peuple. Pauvre Raya.
Pourquoi pauvre ? Est-ce que parce que je dois mourir ? Mais je ne mourrai jamais pour toi, mon chéri. Pour toi, je serai toujours présente. À chaque fois que tu rencontreras sur ta route un enfant déguenillé qui a faim et froid, et qu'à sa vue, ton cœur frémira de révolte, je serai près de toi. L'enfant qui pleure parce qu'il a faim et froid, ce sera moi. L'homme accablé de soucis et qui ne sait où aller, ce sera moi. Et la femme délaissée, et les amours rompus toujours à cause de l'argent, et tous les désirs insatisfaits, et les envies de manger ou simplement respirer, tout cela, ce sera encore moi. toujours, moi. »
Sayed Karam se pencha sur ce corps de femme où vivait tout un monde désemparé et souffrant. Et de son regard et de sa bouche, et de ses mains, il fouilla dans les profondeurs de ce corps, longtemps, à bout de souffle, jusqu'à l'aube.
L'aube se leva sur un quartier régénéré, qui n'acceptait plus la vie telle qu'elle était, mais voulait la dominer, la rendre plus hardie et plus belle.
Le bazar aux nouvelles. Petite histoire, poème.
C'est-à-dire ?
Conte, récit.
C'est à ouïr.
Le bazar aux nouvelles. Des mots d'auteur. Des voix d'amateurs. Des oreilles d'auditeurs. Soyez toutes oui, non ?
Non.